Alors, l'Épître aux Philippiens, l'Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 1er, dont la lecture d'introduction, après on ira un petit peu plus loin. Voilà, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, donc dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Je vous donne le titre de mon message. Comme ça, vous allez être dans le bain directement. Comment dois-je me considérer? Comment dois-je me considérer? Vous allez voir. Beaucoup de personnes ont une piètre opinion d'eux-mêmes. Ils souffrent, je dirais, d'un complexe d'infériorité et tout ça, ça les paralyse. Ça les empêche d'être heureux, d'être épanouis. Alors, ça peut venir d'une enfance malheureuse ou d'autres expériences plus récentes, bien sûr. Pour d'autres, ils ont bien senti par le comportement de leurs parents, à leur égard, personnellement, qu'ils n'étaient ni désirés, ni aimés. Et j'en ai rencontré. La société, dans son ensemble, nous montre que la prise en compte seulement des meilleurs n'arrange rien. Vous savez, c'est les élites, alors c'est tout. Voilà. Et par contre, beaucoup sont laissés pour compte. Et c'est dommage. Il y a aussi l'impression politique et économique qui rabaisse la dignité humaine. Elle est préjugée de race, de sexe, s'entremêle et n'arrange rien. Je dirais bien au contraire, et c'est vrai. Que dire de cette société de consommation, de la concurrence à tout prix, avec tous ces licenciements, parce qu'elle les produit, bien sûr. Et ça a un but terrible, mes amis. C'est saper la confiance d'hommes et de femmes qui, justement, avaient en eux-mêmes une certaine fierté, une certaine confiance. Et voilà qu'ils se retrouvent du jour au lendemain sans rien. Et ça détruit. À l'opposé, existe un autre courant. Le courant, c'est tout à fait autre chose, c'est à l'opposé. Soyez réellement vous-même. Mettez-vous en valeur. Épanouissez-vous. Accomplissez-vous. Ayez des pensées, des attitudes positives. Voilà comment vous devez être. Toutes sortes de livres sont apparus. Des psychologues, ou la psychologie plutôt est devenue une religion. C'est un médecin qui disait cela. Il dit que c'est le culte du moi. Et c'est vrai. De nombreux chrétiens ont également mal interprété certains textes de la parole de Dieu. Et il y a par exemple ce commandement, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Alors ils ont cru que Dieu leur disait, « Aime-toi toi-même de la même manière que tu aimes ton prochain. Aime-toi toi-même comme tu aimes ton prochain. » Jésus n'a pas dit, premièrement, « Aimez Dieu ». Deuxièmement, aime ton prochain. Troisièmement, aime-toi toi-même. Jésus a seulement dit, tu sais, comment il faut t'y prendre pour aimer ton prochain. Est-ce que tu ne prends pas soin de toi? Personne n'a haï sa propre chair. De même que justement tu fais attention à ne pas te faire du mal, eh bien fais pareil à l'égard de ton prochain. Eh oui. Tout ce que vous voulez que fassent les autres pour vous, faites-le d'abord pour eux. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Il y a ce verbe agapao, amour, n'est jamais orienté vers soi-même, voyez. Il s'exprime, on le voit avec Jésus, le modèle est là, il s'exprime dans le sacrifice. Et je rajoute le sacrifice au service des autres. Alors finalement, si je considère cela, eh bien, le péché consiste à vivre uniquement tourné vers soi-même. Voyez ? Vers soi-même. Tout tourne autour de moi. C'est comme ça. Dans sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 3, verset 1er, l'apôtre Paul dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » On commence à en voir. On va dire les prémices, hein, on ne va pas exagérer. Eh oui. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et comme le montre la parole de Dieu, c'est vrai, le monde se détourne totalement de Dieu. Ils détourneront de l'amour de Dieu pour s'aimer eux-mêmes, puisque c'est comme cela. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, et la question, je vous la pose, comment, je me la pose à moi, mais je vous la pose aussi, comment dois-je me considérer ? Je ne veux pas être un égoïste, mais je ne veux pas non plus être un pessimiste à outrance. La haine maladive de nous-mêmes ou l'amour de notre personne, comment ne pas se surestimer ou se sous-estimer à l'opposé, vous voyez ? Mais je crois que la réponse, nous l'avons dans la parole de Dieu. Dans cet acte, je dirais, extraordinaire, mais également douloureux, c'est la croix où Jésus a livré sa vie en sacrifice. Il a livré sa vie, lui le juste, pour des injustes. Il s'est donné pour nous-mêmes. Lui qui n'avait pas commis de péché, il s'est chargé de nos péchés, de nos iniquités. Et ça, je crois que c'est la preuve d'amour la plus grande qu'il puisse y avoir. Je ne vais pas vous répéter Jean 3,16, vous le connaissez certainement. Mais en Christ, l'homme de péché que j'étais a été crucifié. L'homme de péché que j'étais. Et là, vous pouvez dire l'homme ou la femme de péché que j'étais. Parce que si tu es ici ce soir, c'est que tu as fait une expérience avec Jésus. C'est l'apôtre Paul qui écrit dans sa lettre aux Galates, chapitre 2, verset 20. Il dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc une vie entièrement nouvelle a pris place en nous. Au moment où nous avons rencontré le Sauveur, au moment où nous avons choisi de répondre favorablement, je dirais à l'appel qui nous était adressé personnellement, individuellement, eh bien, une vie nouvelle, entièrement nouvelle, a pris place en nous. Ce qui doit justement nous caractériser désormais, c'est la sainteté. Amen. C'est le pardon. C'est la liberté. Un chrétien, il doit vivre comme cela, dans la sainteté, dans la pureté. Amen. Il est celui qui pardonne. Amen. Et oui, si on te marche sur le pied, pardonne. Je parle du pied, mais ça peut être autre chose. Pardonne, parce que ça fait partie justement de ta vocation, de ton appel. Et puis nous sommes libres. C'est-à-dire que nous n'avons plus de joug. Nous appartenons au Seigneur. Nous ne sommes plus esclaves de rien. Amen. Nous avons été affranchis. Alors, quelle opinion devons-nous avoir de nous-mêmes ? Je dirais qu'elle doit être double. Ah, oui. D'un côté, il y a en moi la chair, cette chair déchue, à laquelle je dois renoncer. Et puis de l'autre, il y a la valorisation de soi, l'homme nouveau que je suis en Jésus. Je suis une nouvelle créature. J'ai été recréé par le Seigneur. Alors, pour ce qui concerne le renoncement à soi, Jésus a dit, et il a répété plusieurs fois, je prends Matthieu, j'ai sorti trois références, mais Matthieu 16, 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 10, 38, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Et Luc, chapitre 14, verset 27, « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Amen. C'est le béaba, hein, c'est ce que je vous dis ce soir. Ce sont des choses que vous savez. Mais je crois qu'on a besoin de les réentendre pour savoir se positionner, se situer, pour savoir qui nous sommes. Qui êtes-vous en Jésus ? C'est important de le savoir. Parce que quand même, il y a un prix qui a été payé. Et quel prix, mes amis ? La vie de Jésus. Il s'est sacrifié pour nous. Et ça n'a pas de prix. C'est le Fils de Dieu qui a choisi le sacrifice pour que moi, je sois sauvé. Pour que moi, j'appartienne au royaume de Dieu. Que j'appartienne à Dieu. Amen. Alors, nous charger de la croix et suivre Jésus, c'est nous placer, je dirais, dans la condition d'un condamné en route vers le lieu de l'exécution. Eh oui. C'est-à-dire que nous nous dirigeons vers le seul lieu, justement, où nous devons aller en tant qu'enfants de Dieu, c'est le lieu de la crucifixion. Paul le dit, j'ai été crucifié avec Christ. Tout commandement de Jésus nous ordonne de mourir. Il nous faut mourir à nous-mêmes. Il faut que la chair, elle meure. Il faut que le vieil homme, il reste enseveli, qu'il ne ressorte pas. Alors la croix que nous devons porter n'est pas un mari irritable avec lequel il faut vivre désespérément, ni également une femme acariâtre qu'il faut supporter. Non, c'est pas ça la croix, porter sa croix. Le symbole de la mort à soi ou à soi-même, c'est renoncer à nos soi-disant droits de mener notre barque comme nous l'entendons. Oui, c'est se détourner de l'idolâtrie que constitue l'égocentrisme, c'est-à-dire tout est centré sur moi. Il faut que le moi y meure, sinon ça va revenir. Tout va tourner autour de moi. Alors après le renoncement à soi, voici. Maintenant, ça va nous élever un petit peu plus haut. C'est la valorisation de soi. Jésus n'a pas seulement enseigné le renoncement à soi, il a aussi clairement affirmé la valeur de la personne humaine. Et ça, c'est autre chose que l'amour de soi. Vous comprenez ? C'est autre chose. Jésus ne nous a pas laissé l'impression d'adopter une attitude négative à l'égard des humains, non, au contraire. Est-ce qu'il ne s'est pas intéressé au plus bas tombé ? Il l'a relevé. Il l'a porté. Il l'a sauvé. Il lui a pardonné. Quel était l'enseignement de Jésus ? Quel était-il ? Il dit que les hommes valent plus que les oiseaux ou que n'importe quel animal. Nous avons plus de valeur. Amen. Il s'occupe des animaux, il s'occupe des oiseaux, mais il s'occupe aussi de nous. Si nous le voulons, bien sûr, si nous le laissons faire. En tout cas, l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Le monde entier ne pourrait payer la valeur d'une âme. Combien vaut ton âme ? Je vous garde tous. Hein. Combien vaut ton âme ? Elle a du prix. C'est une valeur inestimable. Amen. Jésus n'a jamais méprisé personne. Il n'a jamais repoussé personne qui, venant à lui d'un cœur vrai et sincère, cherchait auprès de lui tout simplement la solution à ses problèmes. Ce que la société dédaignait, il les accueillait. Amen. Femmes, enfants, samaritains, païens, lépreux, pauvres et les affamés, il les a aimés. Il n'a fait que leur accorder, je dirais, que plus de valeur. C'est pas extraordinaire ? Est-ce que la société agit de la même manière ? T'es un perdant, t'es un laissé pour compte. C'est pas vers lui qu'on va aller. ce n'est pas sur lui qu'on va miser. Quand je réalise que Jésus a misé sur moi, vous me regardez avec des yeux, quand je réalise, et réalisez-le aussi, que Jésus a misé sur vous, vous vous rendez compte? Oui, vous avez de la valeur. Amen. Jésus a révélé la valeur qu'il attachait aux créatures humaines par sa détermination à souffrir et à mourir pour elles, pour nous. Voilà. Alors oui, j'ai une valeur immense aux yeux de Dieu. Jésus-Christ est mort pour moi. Ça n'a pas de prix. C'est inestimable. Alors la croix démontre la valeur de la personne humaine. Et en même temps, l'apôtre Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Comment est-il possible de nous mettre en valeur et quelque part de se renier? Eh bien, il faut voir ce qu'est le « moi », ce que représente le « moi ». Le « moi » n'est pas ou entièrement bon ou foncièrement mauvais, soit hautement valorisé, soit abaissé et méprisé. Le moi constitue une réalité complexe, bien sûr, dans laquelle vont se trouver entremêlés le bien, le mal, la gloire et la honte. Nous sommes en partie une nouvelle création et en partie le résultat de la chute. Et ça, c'est une image déformée de ce que nous sommes. Heureusement qu'il y a eu la croix. Alors, ce qui est de la chute, qu'est-ce qu'il faut en faire? Ce qui est de ce moi déchu, qu'est-ce qu'il faut en faire? Eh bien, il faut le renier, il faut le rejeter. On va jusqu'au bout. Il faut le crucifier. Amen. Parce que ça, c'est incompatible avec Jésus, avec le royaume de Dieu. C'est incompatible. Et le côté qu'il faut apprécier, estimer et affirmer, c'est ce que nous sommes maintenant en Jésus-Christ. Qu'est-ce que je suis? Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Jésus est mon frère. Alléluia. Là, nous découvrons notre vrai moi. Nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes acceptés de Christ. Il a choisi le sacrifice pour que moi je vive. Amen. Oui, j'ai de la valeur. Et ce moi, maintenant, il doit exister d'une autre manière. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Amen. C'est tout à fait autre chose. Alors, il y a en nous le côté esprit, le côté chair. Paul dit, Galates chapitre 5, verset 16, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Je suis donc d'une grande dignité, parce que homme nouveau en Jésus-Christ, d'une grande indignité, parce que déchu et rebelle par nature, eh oui, noblesse et bassesse, splendeur et laideur, eh bien, il faut donc discerner ce qui essaie de me contrôler. Est-ce le côté glorieux ou est-ce le côté bassesse? Dans le monde, on parle beaucoup de réussite. Et bien sûr qu'on peut être influencé par cela. L'exemple de Jacques et de Jean, vous savez, les fils de Zébédée, de Mme Zébédée, il est très clair. Marc chapitre 10, verset 35, ils viennent vers Jésus et ils disent « Nous désirons que tu fasses ce que nous te demanderons. » Il n'y en a pas beaucoup qui se sont approchés comme ça. Hein. Ils avaient du culot. Hein. Ben, ils avaient de l'ambition. Et Jésus répond dans Marc chapitre 10, verset 45, « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour plusieurs. » Alors d'un côté, c'est ce qu'ils étaient, l'ambition, ça c'est un côté égoïste, parce que nous voulons être, nous, un à ta droite et l'autre à ta gauche. Nous voulons la place la plus importante après la tienne, bien sûr. Hein. Oui, mais nous voulons être les personnages les plus importants. Alors, l'ambition égoïste, et puis dehors, de l'autre côté, Jésus présente, lui, le sacrifice. Je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Je suis venu pour donner ma vie comme rançon pour plusieurs. Je ne suis pas venu pour moi, dit Jésus. Mais je suis venu pour vous. Amen. Alors, eux, ils ont imaginé qu'il y aurait quelque part une concurrence sérieuse pour être à la droite et à la gauche de Jésus, pour conquérir finalement les meilleures places. Alors, ils ont compris qu'il valait mieux faire des réservations à l'avance. Parce qu'il y aurait de nombreux concurrents. Eh oui. Ça, c'est la vanité humaine. C'est la vanité humaine, bien sûr. Jésus, quant à lui, il possédait la puissance et la gloire. Il y a renoncé. Afin de faire quoi ? Eh bien, la volonté de Dieu, son Père. Et je crois que nous avons là, cette parole de Philippiens, elle est là, chapitre 2, versets 5 à 9, c'est suivre l'exemple de Jésus comme Paul le suggère. Il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé. » Vous vous rendez compte ? Il faut que le vieil homme y soit dépouillé, afin que l'homme nouveau puisse vivre. Il a pris la forme de serviteur, il est devenu semblable aux hommes, il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. C'est humiliant, hein ? Mais il faut que le vieil homme y meure. Il faut que le moi il soit crucifié. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu... Et si nous voulons être élevés, ben, il faut passer par là. Avant la gloire, il faut passer par la croix. Il n'y a pas autre chose, c'est pas autrement. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. C'est pas formidable ? Ben si. Il faut passer par là. Tant que le moi réclamera, il revendiquera, et il essaiera quelque part de te monter, de te faire savoir que tu es quelqu'un d'important. Qu'est-ce que nous sommes sans Jésus ? Pas grand-chose. Mais avec lui, oui, nous sommes importants. Mais lui, il faut qu'il vive à l'intérieur. Il faut qu'il s'exprime. Il faut qu'il puisse se développer en moi, cet homme nouveau. Amen. Cet homme qui accepte, cet homme qui va savoir, je te pardonne. Avant même que j'aie prononcé la parole, je t'avais déjà pardonné. Avant que tu me demandes pardon, je t'avais déjà pardonné. Parce que c'est comme ça que ça marche. Et c'est quelqu'un qui est libre. Quelqu'un qui est libre, qui marche pour le Seigneur, qui travaille pour le Seigneur, qui est heureux, qui s'épanouit, qui grandit. Et puis, qui est un instrument de Dieu, hein, que Dieu bénit. Amen. Voulez-vous que Dieu vous élève ? Coucou. Vous savez plus ce qu'il faut faire, là ? Alors, si, j'espère. Hein. Il faut que le vieil homme, la vieille nature, cette nature pécheresse, elle meure. Amen. Afin que l'homme nouveau puisse vivre. Gloire à Dieu.